Mana Ono, salam. Je suis Simbak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïe Rami Prod, qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photo. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel, qui est un Français qui vit à Madagascar depuis de longues années. Témoignage d'un réel amoureux de notre terre, je vous laisse écouter cet échange très enrichissant. Bonne écoute.
Bonjour Jean-Michel, comment ça va?
Bonjour, ça va très très bien, et toi-même?
Ça va très bien, merci. Bon, on a déjà échangé pas mal, toi et moi. On a eu une très longue et très intéressante discussion. Tu m'as demandé aujourd'hui d'avoir une discussion plus constructive. Tu m'as demandé d'apporter des choses à ce podcast. Donc je suis ravie que tu y participes parce que je pense que tu as beaucoup de choses à partager. Mais d'abord, je te laisse te présenter aux auditeurs, que tu nous dises quel âge tu as, depuis combien de temps tu habites à Mada et où est-ce que tu habites aujourd'hui.
Très bien. Ouh là là, il y a des informations confidentielles. Donc, je suis un jeune homme de 56 ans. Ça fait bientôt 14 ans que j'ai mis les pieds à Madagascar pour la première fois et je suis arrivé ici pour m'y installer d'emblée. Et aujourd'hui, après plusieurs vies professionnelles dans le pays, depuis 3 ans, je suis installé et je vis à Tuléar.
D'accord, parfait. Bilan des 14 ans, positif, négatif, on est dans quel... On balance vers quelle pensée?
Ah ben un bilan évidemment très positif. Sinon, je pense que si le bilan est pas bon, on reste pas 14 ans et on s'en va. Non, évidemment un bilan très positif avec, comme je l'ai dit à l'instant, plusieurs vies professionnelles et puis une grande variété d'actions et puis aussi un petit peu du don de soi parce que en tant que Français résident à Madagascar, même si j'ai vécu pendant de longues années hors de mon pays d'origine, je ne conçois pas de vivre dans un pays sans donner un petit peu en retour au pays qui m'accepte et qui m'adopte.
C'est beau, c'est très bien. Avant de vivre à Tuléar, tu vivais où?
Alors j'étais pendant 10 ans à Tana. C'est mon travail m'a conduit à Tana et il faut faire l'aveu quand même que l'essentiel du bassin d'emploi, des opportunités professionnelles se trouve dans la capitale. C'est pas propre à Madagascar, mais c'est évidemment le cas ici. Et ensuite j'ai fait un passage de 6 mois à peu près à Antsirabe, avant de prendre la route du Grand Sud.
D'accord. Pour nous situer un peu, je suis jamais allée à Tuléar. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la ville, dans quel environnement tu vis et où est-ce que ça se situe?
Alors, Madagascar, c'est à l'extrême sud-ouest, je dirais, du pays. Hein. C'est vraiment la ville où se termine la fameuse et célèbre route nationale 7, qui est un axe qui traverse Tuléar, oui, tout à fait, qui est l'axe qui traverse le pays de nord au sud et qui est surtout un axe chéri par les touristes parce que c'est une route magnifique qui va de Tana jusqu'à Tuléar en passant par Antsirabe, Fianarantsoa, Ambalavo, etc. Et qui permet justement de passer de toutes les géographies du pays, on part des hauts plateaux et on atterrit sur la côte. Et alors donc Tuléar est une ville tropicale, je dirais, avec un climat tropical. Alors on se parle, on est en plein été, il fait très très chaud, très humide, avec une végétation tropicale. Et on retrouve un petit peu le tempo tropical aussi, la chaleur conduisant parfois à avoir un ralentissement de l'activité en début d'après-midi, et on comprend bien pourquoi, c'est vraiment le propre des tropiques, je dirais. Je ne saurais pas dire exactement la population en termes de nombre d'habitants, mais c'est une des capitales des anciennes provinces de Madagascar. Ce n'est pas la plus grande, mais je dirais peut-être 200 000 personnes, mais sous réserve. Hein, sous réserve, vraiment, en plus, les recensements ne sont pas toujours à jour. Mais intuitivement, je dirais peut-être 200 000 personnes.
D'accord, d'accord. Et le parallèle un peu avec Tana, la population, la mentalité, est-ce que c'est très différent, les deux ?
Alors oui, oui, je le disais à l'instant, hein, je pense que la dimension climatique n'y est pas totalement étrangère. Hein. C'est vrai qu'en été, il fait très chaud, c'est difficile quand même de rester actif toute une grande journée de travail, par exemple. Il y a des temps de pause qui s'imposent à cause de la chaleur vraiment qui est parfois accablante. Et puis, peut-être qu'un des aspects aussi, je dirais, sur le mode de fonctionnement, au plan professionnel, en tout cas, entre Tana et Tullard, c'est que le dynamisme économique y est quand même moins grand. J'ai envie de dire, et sans froisser quiconque, bien sûr, parce que c'est dit avec beaucoup de bienveillance, j'ai envie de dire que Tullard fait partie un peu de ces villes de province qui ont été un petit peu oubliées, que ce soit au titre du développement économique ou bien même en amont de ça, au titre d'une vraie volonté de décentralisation, mais je sais que c'est un vaste sujet à Madagascar, ou bien même au titre des opportunités éducatives et formatives pour la jeunesse. Voilà, on est un petit peu plus démunis que dans la capitale quand même, très clairement.
D'accord, d'accord. Alors, je viens de googler le nombre de personnes à Tullard. On est en 2018 à 168 756, donc tu ne dois pas être très loin des...
Oh bah écoute, bingo, j'étais pas mal, ouais.
Pas très loin. Ouais. 14 ans à Mada, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué, enfin en tout cas, je pense. Est-ce que toi, tu vois le changement concrètement de la ville, les infrastructures, les routes? Est-ce que tu vois une amélioration, une progression du pays?
Alors, c'est difficile d'avoir un jugement un peu macro quand on est surtout un peu... dans une région un petit peu à l'écart, je dirais. Ce qui m'a franchement étonné favorablement et positivement dans les derniers séjours que j'ai fait à Tana, c'est le gros effort qui est fait, la grosse réflexion qui est conduite par la commune urbaine de Tana pour essayer de trouver des solutions urbanistiques aux problèmes notamment de circulation. Et je vois que depuis que je suis arrivé, il y a des efforts qui ont été faits, mais j'ai l'impression de voir une accélération de la prise en compte de cette réflexion urbanistique depuis que la nouvelle équipe municipale à Tana est en place. Donc ça, c'est assez net. Pour ce qui est des infrastructures routières, ça reste quand même aléatoire. On trouve parfois de belles routes, mais qui parfois, 2-3 ans après, se retrouvent bien endommagées, faute d'entretien et probablement faute de moyens. Il ne s'agit pas de jeter la pierre. Mais voilà. Globalement, je pense que le pays est en bonne voie. Ce qui reste compliqué, c'est les différentes peut-être crises politiques qu'on peut trouver sur des périodes régulières. Hein, ça a été relevé par des spécialistes, et j'en suis pas, mais qui viennent à chaque fois un petit peu freiner les choses. Mais bon, ça c'est paraît-il, certains l'ont écrit, le paradoxe malgache. Mais bon, c'est là aussi un vaste sujet.
D'accord. Généralement, on parle beaucoup de la volonté d'aider le pays. Tu vois, on parle beaucoup de vouloir apporter de la valeur au pays, etc. En tout cas, on voit à travers les nouvelles générations qui aujourd'hui retournent à Madagascar. Est-ce que tu as l'impression que les locaux qui sont là-bas aussi, à Madagascar, ont cette envie aussi de relever le pays, d'apporter quelque chose, ou tu penses que ça vient généralement de la diaspora?
Alors là aussi, on va devoir distinguer un petit peu mes années Tana de mes années Tullard. Je pense que les conditions de vie, le pouvoir d'achat, la réalité quotidienne sont évidemment bien différentes pour une majorité de la population. C'est pas généralisable non plus, mais entre Tana et Tullard. Et je dirais que quelle que soit la résidence de cette population, quand l'objectif c'est grosso modo la survie et qu'il faut juste penser au capoc de riz du soir pour nourrir la famille, on n'a pas le temps. On n'a pas l'énergie, on n'a pas la pensée pour donner à la société, parce que la société doit déjà me donner de quoi manger. Concernant les gens qui sont au-delà de ce minimum dont on a besoin pour vivre, je pense qu'il y a pas mal de jeunes résidents à Madagascar qui n'ont pas quitté le pays, qui sont portés par cette envie de donner des choses, de manière parfois un peu romantique, mais c'en est touchant. Et en tout cas, ça signifie et ça signale, je crois, une bonne démarche de partage. Et peut-être que c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver un peu dans les ancrages traditionnels et culturels du Fiavanana ou autre. Concernant les exemples de personnes que j'ai connues qui avaient vécu à l'étranger, en France ou ailleurs, et qui revenaient au pays, on le trouve parce que justement le retour au pays est souvent accompagné d'une prise de conscience qu'on n'avait pas toujours, parce que soit on n'est pas venu depuis longtemps, soit on est venu que pour des vacances, et on sait bien que quand on vient que pour des vacances, on a une vision forcément un petit peu déformée et peut-être un petit peu idyllique, parce qu'on vient là un peu pour passer un bon moment. Et je vois quand même pas mal de gens qui, à la lumière de cette prise de conscience, ont envie de faire bouger les lignes pour redonner au pays. Et je trouve ça formidable. D'ailleurs, c'est un des espoirs, je crois, pour Madagascar, que de voir la diaspora trouver de bonnes conditions pour son retour et s'engager pour apporter au pays ce qu'elle a pu glaner et ce en quoi elle a pu s'enrichir en ayant étudié, grandi, travaillé à l'étranger, à l'extérieur, comme on dit ici, n'est-ce pas?
Tout à fait. Mais selon toi, tu vois, il y a beaucoup de malgaches de la diaspora qui ont peur de revenir ou qui ne veulent simplement pas revenir. Il y a beaucoup de causes à ça. Hein. Je pense que c'est aussi très personnel. Ça peut être, tu vois, on m'a parlé de la pression de la famille, ça peut être la politique, ça peut être, enfin voilà, beaucoup de causes. Toi, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu restes à Madagascar? Qu'est-ce qui te plaît encore à Madagascar, en fait?
Alors, c'est très complexe. On m'a souvent posé la question parce que c'est vrai que j'ai roulé ma bosse pas mal depuis la fin des années 80 et j'aurais pu continuer de le faire. Et finalement, la vie m'a conduit à faire autrement et Madagascar, en gros, m'a chanté l'appel de la sirène en disant « c'est ici que tu vas poser tes valises, en fait ». Mais les gens qui ne sont pas résidents ici, mes amis en France ou ailleurs, me disent « mais pourquoi, comment ? On voit bien que c'est pas un pays facile, on voit bien que c'est un pays pauvre, pourquoi ?» Alors, je traduis ça souvent de manière un peu simpliste et volontairement un petit peu provocatrice en disant « c'est le Far West deux fois ». C'est un Far West un peu difficile parce que on bénéficie pas toujours d'un environnement juridique, d'un environnement culturel qui pourrait s'apparenter à ce qu'on trouve dans d'autres pays de l'hémisphère nord, je dirais. Donc ça, c'est ce qui peut créer un petit peu parfois d'inquiétude ou parfois d'inconfort, je dirais. Mais par ailleurs, c'est aussi le bon Far West dans le sens où pour tout le monde, hein, pas seulement pour les étrangers, bien entendu, la possibilité de réaliser des choses est plus grande parce qu'elle est moins encadrée. Elle est moins encadrée finalement. On peut tout à fait créer une entreprise assez, beaucoup plus facilement, je pense par exemple à Madagascar, qu'en France. On a la possibilité de trouver des forces vives qu'il faut peut-être parfois accompagner par de la formation, mais qui sont motivées, qui sont capables de se mobiliser sur des projets. On ne trouve pas ça toujours chez les jeunes en France. Voilà, c'est à la fois voilà, c'est le bon et le mauvais Far West, mais en tout cas la balance est positive parce qu'autrement, comme je l'ai dit plus tôt, si la balance était négative, je ne serais pas resté depuis aussi longtemps. Bientôt 14 ans, ça commence à faire une vraie tranche de vie, n'est-ce pas?
Tout à fait. Ah oui, non mais 14 ans, c'est beaucoup. Mais j'imagine aussi que dans une expérience de vie à l'étranger. Bon, j'imagine que tu peux pas avoir que du positif. Enfin, tout n'est pas tout rose tout le temps. J'imagine qu'il y a des choses du quotidien ou même pas du quotidien, mais des mentalités ou des façons de faire où tu te dis bon, je suis bien à Madagascar, non?
Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, j'ai toujours vécu tous mes passages dans des pays autres que celui où je suis né, où j'ai grandi, comme l'occasion de découvrir et d'apprendre. Et à chaque fois que j'ai dû quitter un pays, quand je quittais mes amis ou les gens avec qui je travaillais, j'ai toujours dit je pars avec un petit morceau de vous dans mon cœur, parce que finalement on s'approprie des choses quand on vit et qu'on travaille, et a fortiori quand on vit et qu'on travaille avec les gens du pays, qu'on n'est pas dans des enceintes très fermées. Donc je pars avec si vous m'y autorisez, je pars avec un petit morceau de votre pays dans mon cœur. Et j'espère, mais c'est vous qui le savez, que je vous aurai laissé un petit morceau de mon cœur près de vous au moment où je pars. Et c'est vraiment dans cet échange et cette rencontre qu'on se réalise. En tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours vu les choses.
D'accord. Quand on a discuté la première fois, Jean-Michel, tu m'as dit, Saint-Batch, est-ce que tu sais comment on devient millionnaire à Madagascar? et figure-toi que je l'ai posé à mes parents qui savaient pas. Donc la réponse c'est il faut arriver milliardaire. J'aimerais bien que tu l'expliques cette phrase parce que je pense qu'elle illustre finalement beaucoup de choses sur la vie d'un arriviste entre guillemets à Madagascar et sur le monde du business à Madagascar.
Effectivement, et ça rejoint ce que je disais, à savoir qu'on doit vraiment partout où on passe, et c'est ô combien vrai à Madagascar, on doit d'une certaine façon appuyer sur le reset et arriver avec la page blanche. Et ça vaut aussi pour bien sûr le monde professionnel et a fortiori encore quand tu parles de création d'entreprise, etc. Parce que l'environnement des affaires, au sens très très large, est différent de ce qu'on peut trouver. On va parler de l'hémisphère nord, en tout cas, où la plupart des malgaches qui reviennent au pays viennent de là. Ou bien la plupart des étrangers, des Vazas, comme on dit ici, viennent de l'hémisphère nord, beaucoup de France, mais d'Europe ou parfois d'Amérique du Nord. On va pas trouver la même organisation, le même climat des affaires. On va dire aussi même la même sécurisation. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un vrai sujet auprès des investissements Madagascar, qui Madagascar est une réelle terre d'opportunités et a fortiori et y compris. Et je souhaite que Madagascar développe ça en matière de co-développement, mais la sécurité n'est pas telle qu'on souhaite la trouver quand on est dans l'hémisphère nord, par exemple. Et par conséquent, beaucoup de gens arrivent avec ce schéma qu'on va pouvoir faire des affaires à Madagascar comme on en fait en France, qu'on soit malgache, français ou ailleurs. Je parle de la France parce que je suis français, mais encore une fois, ça s'applique à tous les pays, je pense, du Nord. Et on se rend compte qu'on ne travaille pas de la même façon, ni dans la relation avec son personnel, ni dans la relation à la justice, ni dans la relation à l'administration, ni dans la relation peut-être même à la façon de voir les choses, la relation à la temporalité. Et donc si on n'est pas sensibilisé et ouvert à d'autres modes de fonctionnement, on peut arriver et perdre beaucoup. Et c'est là où c'est évidemment sous la forme d'un clin d'œil comment on devient millionnaire à Madagascar en arrivant milliardaire, parce que certains y ont effectivement perdu des plumes, convaincus qu'ils allaient pouvoir transporter leur modèle, alors que c'est à nous à réapprendre ou à apprendre le modèle en vigueur ici. Ça fait à la fois la beauté de la chose et sa difficulté.
Alors, je pense qu'il y a deux choses à relever dans ce que tu dis, parce que je pense que, bah, par exemple, la génération de mes parents qui aujourd'hui ne vivent plus à Madagascar et qui ont plus de 55-60 ans, ils se considèrent toujours malgaches, ce qui est très normal, mais je pense qu'ils ne sont pas forcément conscients, ou alors ils ne veulent pas le voir, que quand ils reviendront à Madagascar, il faut s'adapter à une nouvelle vie. Il faut réapprendre. C'est comme si tu repartais à l'étranger. En fait, c'est comme si tu venais t'installer une nouvelle fois à Madagascar. Je ne sais pas d'où ça vient, cette volonté de toujours penser que finalement, tu es malgache et tu connais très bien la culture malgache, même si ça fait plus de 15, 20, 30 ans que tu ne vis plus à Madagascar. Les choses ont évolué et c'est pour ça que tu vois, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de l'évolution du pays, ça peut être l'évolution physique du pays, ça peut être aussi l'évolution au niveau de la mentalité, ça peut être... Enfin, tu vois, j'estime que quand tu quittes un pays, il y a beaucoup de choses qui changent. Toi aussi, tu as changé. Donc, le jour où tu reviendras, mais tout sera différent.
Bien sûr, mais on vit souvent avec la vision, je pense, un peu romantique de son origine. La question que tu poses, tu pourrais me la poser à moi en tant que Français qui a quitté la France, voici bientôt 35 ans, j'aime mon pays, j'y retourne avec plaisir, j'adore être touriste en France, mais je me rends compte, j'ai fait quelques passages, quelques périodes professionnelles, je me rends compte qu'effectivement, l'évolution des relations professionnelles, par exemple, ou l'évolution du climat des affaires, ne m'a pas permis de retrouver ce que j'avais laissé. Donc je pense que c'est assez naturel. Après, si on évoque l'exemple de la génération qui a fait une partie de son parcours, de sa carrière dans un pays étranger, le fait de revenir au pays, je sais combien c'est important pour les Malgaches. C'est revenir à la racine, c'est revenir à la terre des ancêtres, c'est se rapprocher, évidemment, le plus tard, le mieux, et j'en parle en espérant ne pas être fade en disant ça, mais c'est aussi se rapprocher du tombeau familial, parce que c'est important. Et partant de là, c'est peut-être plus facile d'y revenir parce que on a fait son parcours, si on a la chance d'être retraité d'un autre pays, on peut revenir avec des moyens qui permettent de ne pas trop se casser la tête, je dirais, pour les conditions de vie quotidiennes et éventuellement même d'avoir des gestes vers le pays de soutien, de solidarité quand on mesure le décalage. En revanche, les plus jeunes, je pense que c'est pas la même musique parce que certains font le choix de quitter une situation et Dieu sait que la communauté malgache en France est, je crois, majoritairement à la fois bien intégrée, bien installée, y compris dans son monde professionnel et économiquement assez confortable, je pense. Et faire le choix de quitter le confort que peut procurer un bon contrat dans une entreprise en France avec les avantages sociaux, encore une fois, je parle de la France, pardon, et que peuvent proposer les pays européens en général. Là, faire le choix de quitter cela pour dire je reviens m'établir à Madagascar et pour engager une nouvelle vie professionnelle, là, c'est à la fois courageux, complexe, et ça suppose vraiment la prise en compte de beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, la prise en compte de beaucoup, beaucoup de choses, notamment. Par exemple, on parle beaucoup de la famille. Et moi, il y a des choses très paradoxales en fait que j'entends depuis que j'enregistre ces podcasts. C'est les Malgaches, on est très famille, on est très dans l'union, la solidarité, se retrouver, voilà, ensemble pour célébrer ou non des événements, mais vraiment le fait de se retrouver. Mais d'un autre côté, la vision que j'entends à Madagascar de la famille, c'est également cette jalousie un peu malsaine, cette volonté de pas forcément s'entraider, mais plutôt d'attendre l'échec de l'autre.
Alors, je peux pas témoigner pour ne pas vivre en tant que malgache, une famille malgache à l'intérieur. Je crois que la famille est un vrai pilier, évidemment, de la société malgache, et ça, c'est historique et ça le restera, j'espère, j'en suis sûr. Mais c'est vrai qu'elle a des effets sur le quotidien, de ce que je peux voir et entendre autour de moi de la part de mes amis et de mes relations malgaches. C'est vrai que la famille, elle est omniprésente presque. C'est-à-dire qu'on peut pas s'affranchir des obligations familiales. On peut pas être absent des grands rendez-vous, y compris les plus tristes. Et c'est bien normal. Alors que quand on a acquis le mode de vie occidental, la famille était également très importante, mais dans des modalités différentes. Donc ça, c'est la première chose au niveau peut-être du temps à consacrer à la famille qui peut-être augmente considérablement quand on vient s'établir à Madagascar, d'une part. Le côté de la jalousie, je ne sais pas, j'entends parfois quand même que quand on est malgache et qu'on est revenu d'un long séjour d'études et a fortiori de travail à l'étranger, on est probablement un peu plus fortuné que la majorité des membres de la famille qui sont restés dans le pays et peut-être que naturellement, sur le fond d'une vie qui est difficile, ça pourrait prêter à penser que toi qui es un peu plus fortuné, viens exprimer ta solidarité envers nous parce que on manque de moyens et aide-nous un petit peu. Et ça peut être, je suppose, peut-être aussi des choses qui surprennent un petit peu et que je pense qu'il faut effectivement gérer et encadrer. Et après, quant à la jalousie, bon, la jalousie, Madagascar n'a pas l'exclusivité de la jalousie. La jalousie est assez communément répandue, je crois, sur Terre. Mais c'est vrai que la vie est difficile, encore une fois, je le dis et je le répète, pour une partie importante de la population, et que si quelqu'un réussit à côté de soi, on a envie de se dire « mais c'est injuste, pourquoi lui ou elle et pas moi ?» Peut-être que c'est ça, finalement, qui est moteur de jalousie, encore une fois, sur le fond d'un petit peu de pauvreté quand même, on voudrait un peu plus de développement économique qui se traduirait dans un mieux vivre et un développement humain au final.
Tout à fait. Mais en fait, je te pose la question parce que j'ai déjà entendu suite à des enregistrements de podcast que généralement les Malgaches ont plus de facilité à justement se confier à des gens non malgaches sur la pression de la famille, sur un retour ou non au pays, sur des questions qui se posent. Finalement, ils ont plus de facilité à le dire à quelqu'un qui peut être vaza comme toi qu'à quelqu'un qui est malgache, alors que c'est des questions très très intimes et aussi très très existentielles qui finalement peuvent être abordées en tout cas moi pour ma part dans ma famille. Donc tu vois, c'est pour ça que je te pose la question à toi, parce que finalement, comme tu le dis, tu as déjà entendu ce genre de choses Donc, c'est que les gens s'exposent plus facilement avec toi.
Oui, bien sûr. Et puis, je pense que oui, effectivement, la confiance vient non pas de l'origine ethnique de la personne à qui on le dit, mais on sait que la personne, justement, est extérieure à la fois à la sphère familiale quand on se confie à un étranger comme moi, mais en plus, extérieure aussi, même parfois, on imagine, à la compréhension de la réalité de cette sphère familiale. Et donc, ça peut être aussi l'occasion d'avoir confiance, de dire celui-là ou celle-là. Déjà, je suis pas sûr qu'elle comprenne tout ce que je vis dans ma famille parce qu'elle ne vit pas la même chose. Et puis, en plus, possiblement, ce sera pas répété dans mon cercle familial parce qu'il n'en fait pas partie.
Tout à fait. Non, mais tout à fait. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, tu as trouvé ta place à Madagascar. Est-ce que tu te sens un peu malgache?
Oui. De cœur, absolument. Moi, j'ai été, comme je dis, j'ai été adopté par Madagascar à 14 ans. J'ai essayé de donner des choses aussi à Madagascar, y compris dans des actions bénévoles importantes. Et je me sens malgache parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai réapprises, en fait, à Madagascar, notamment dans le cadre de ma première mission où j'encadrais quand même des équipes nombreuses. J'étais directeur pays de l'Alliance française à Madagascar. Donc, le réseau des 29 alliances représentait au total une grande famille de près de 900 personnes qui m'ont réappris à envisager le management en réintégrant des choses que peut-être on a un petit peu oubliées en Europe, la dimension humaine, la prise en compte de l'individu qui parfois même passe avant l'objectif professionnel, ce qui n'est pas parfois, d'ailleurs, sans poser de questions lorsqu'un expatrié arrive avec sa culture managériale nord, où d'abord c'est l'objectif et la performance, et après, et tant mieux si la relation personnelle s'installe dans les équipes professionnelles. On se rend compte qu'à Madagascar, un des préalables, c'est d'abord il faut qu'on s'entende avant de pouvoir commencer à travailler ensemble, et c'est pas toujours la même vision qu'on partage quand on vient d'ailleurs. Mais donc, voilà, pour répondre à ta question, je sais que ce sont des choses qui m'ont beaucoup enrichi à rebours, de remettre de la perception humaine, de la compréhension, autant qu'il est possible de le faire, sans tomber dans les extrêmes, dans l'exercice de son métier.
Alors, tu as beaucoup voyagé, donc forcément, tu as cette adaptabilité qui est assez facile. Je pense que tu es quelqu'un qui s'intéresse aussi à la culture et qui a envie d'apprendre et de comprendre. Et justement, de l'autre côté, est-ce que les Malgaches, eux, t'adoptent aussi ou te voient toujours comme un Baza qui vient d'arriver? Selon toi, bien sûr, ou selon ce que tu as entendu?
C'est une question difficile parce qu'elle est à la fois délicate et sensible. J'ai de véritables amis malgaches. Et s'ils m'entendent, ils se reconnaîtront. On fait partie de la même famille. On est comme des frères et sœurs dans nos différences. C'est pas la majorité, mais c'est possible. Après, effectivement, il y a quand même le regard de la rue, même à Tana, où forcément, on voit bien le regard vers l'étranger, vers le Vahini, quand on est poli, ou vers le Vaza, peu importe, qui est là et qui est omniprésent. C'est encore plus vrai, je pense, dans le Sud, où effectivement, les difficultés de vie étant telles pour la population, que la perception que la population se fait du décalage avec le Vaza qui passe dans la rue est encore plus importante. Donc, oui, c'est possible, et je l'ai vécu et je le vis, d'avoir une réelle relation sans aucun complexe, sans aucune arrière-pensée, sans aucune crispation. Mais bon, c'est pas spécifique à Madagascar, je pense que c'est valable partout, et c'est valable y compris avec les gens de la même origine que soi. On n'est pas forcément dans le même niveau de relation avec tout le monde.
Non, tout à fait. On ne peut pas être au même niveau, mais tu vois, je trouve ça dommage qu'on soit sur des débats sur est-il malgache ou pas, juste à cause de son prénom, son nom ou sa couleur de peau, alors que finalement, tu peux faire partie d'un pays. Toi, par exemple, tu t'es intéressé à la culture, tu t'es intéressé à la langue, aux traditions, tu y vis depuis 14 ans, donc tu es bien plus malgache que moi. Donc moi, par exemple, jamais je me permettrais de dire que tu n'es pas malgache si toi tu te sens malgache, tu vois. Et je trouve ça important de le relever parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où tout le monde est amené à voyager, à bouger, on quitte nos pays pour aller ailleurs. Et je pense qu'après X années dans un pays, ça fait toujours mal, plus ou moins, hein, qu'on te dise que tu fais pas partie de ce pays, alors que toi, c'est, comme tu le dis, ton pays de cœur et que tu l'as adopté, non ?
Oui, bien sûr, mais bon, après, il faut pas non plus, voilà, il faut vivre avec ça. Quand on fait le choix de quitter son chez-soi d'origine, il faut s'exposer à entendre que tu n'es pas ici chez toi. Je veux dire, certains étrangers, les étrangers, parfois entendent en France aussi, même si tu es français, taratas, ben on va te dire que tu n'es pas français parce que tu n'as pas un nom d'origine française, etc., etc., en oubliant parfois qu'il y a eu des millions d'Italiens, de Polonais qui sont venus au début du XXe siècle, au moment de la révolution industrielle, etc., etc. Donc il faut accepter ça, je pense, sans trop se troubler. Mais il y a un point sur lequel je pense qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas oublier que Madagascar est une île. Et on sait tous, ça vaut partout dans le monde, que l'insularité n'est pas l'élément le plus propice à l'ouverture à autrui, parce qu'il n'y a pas de frontières terrestres, par définition, puisqu'on est une île. Et donc, dans l'histoire du pays, il n'y a pas eu d'arrivée par les frontières de voisins. Si on avait été collé encore au continent Pangée, on aurait eu des Mozambicains qui seraient rentrés et les Malgaches seraient allés au Mozambique ou bien au Kenya ou bien dans les pays de l'Afrique de l'Est. Le fait d'être une île, ça a quand même un poids, je pense, sur l'inconscient collectif et de la perception de l'autre. Et on le trouve dans toutes les îles. J'ai travaillé dans une autre île, une autre grande île aussi. J'ai eu la chance de travailler 4 ans à Cuba. J'ai adoré mon séjour à Cuba. Je garde des amitiés cubaines très fortes. Mais on voit bien que l'insularité conduit à ne pas toujours avoir cette ouverture vers l'autre, sauf quand on a eu la chance et l'occasion de voyager et là, de rencontrer l'altérité.
Et donc, du coup, Jean-Michel, j'ai une question. Mais est-ce que... parce que là, on parle des non-malgaches, mais est-ce que les malgaches entre eux, déjà, arrivent à cohabiter ensemble et se reconnaissent sur un pied d'égalité entre malgaches ?
Alors, autre question sensible, autre sujet sensible, je m'abstiendrai de faire de grandes déclarations, mais je pense, après mes 14 ans de vie passionnée et passionnante à Madagascar, il faudra un jour soulever le coin du tapis sur la question de l'ethnicité à Madagascar, parce qu'on a parfois des discours convenus en disant nous sommes un peuple malgache uni, c'est vrai, à bien des égards, mais on se rend compte quand on creuse un petit peu le sujet qu'on ne se sent pas tout à fait aussi malgache ou de la même façon selon que l'on soit originaire de telle ou telle région.
D'accord, donc c'est un sujet à travailler. Mais est-ce que ça change selon les générations, parce que peut-être qu'il y a X années, 5, 10, 15 ans en arrière, oui, c'était le cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a quand même plus d'ouverture d'esprit ?
J'aurais du mal à caractériser ça, objectivement.
Je me demande, est-ce que ça vient vraiment du fait de devoir sortir de son pays ? C'est pas forcément une question, mais c'est une réflexion que je me fais. Moi, je pense que ça vient de l'éducation, en fait. Ça vient de ce qu'on t'apprend, que ce soit à l'école, à la maison, l'État, l'Église, toute institution que tu fréquentes, qui finalement t'apprennent ce genre d'ouverture d'esprit. Je pense que t'as pas forcément besoin de sortir de ton pays. Oui, ça aide, effectivement, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais je pense que en ayant été éduqué aussi comme ça, ça va forcément aussi apporter un développement et un changement de ce genre de mentalité.
Indéniablement, c'est le substrat nécessaire. Sans cet apport éducatif, que ce soit par la famille ou par l'école, point de salut, je dirais. Mais on se rend bien compte quand même que tout ce qu'on apprend de manière empirique dans un parcours académique, scolaire ou académique, ne vient vraiment se cimenter en profondeur que lorsqu'on le confronte à la réalité. Alors effectivement, la confrontation à la réalité sur la rencontre de l'autre dans sa différence, que ce soit un autre d'une autre région malgache ou un autre originaire d'un autre pays, ça vient sur la possibilité de vivre des choses, de partager des choses, d'avoir l'occasion d'apprendre à connaître ce que l'autre peut apporter et présenter de différences. Et c'est justement tout le travail qui conduit à la tolérance, c'est entendre, identifier la différence et apprendre à l'accepter, même si on n'est pas d'accord. Et ça peut se faire évidemment dans le pays.
Exactement, exactement. D'accord, parfait. Pour terminer, Jean-Michel, je vais avoir trois petites questions pour toi. Rapide, parce qu'on m'a déjà dit que mes épisodes étaient un petit peu trop longs.
Et en plus, je suis quelqu'un de très bavard, je suis désolée.
En plus, mais tant que c'est intéressant, je ne t'arrête pas. La première, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar ?
Le fait d'avoir dépassé le niveau où, en arrivant, on peut ne rien comprendre, et le fait d'avoir au moins l'impression de comprendre ce qui m'entoure, au niveau culturel, au niveau des perceptions individuelles, au niveau social, au niveau sociétal. C'est rassurant, parce que la tâche est vaste, d'avoir eu la chance d'acquérir, grâce à des personnes éclairantes, quelques clés de compréhension. Après, bien entendu, des projets personnels et de vie, et puis des projets professionnels, et puis tout ça bout à bout fait que le cocktail est réuni pour dire « tant qu'on veut bien me garder et que je suis bien là, pourquoi ne pas continuer ?»
Mmh. Je vais rester. Quels sont tes conseils pour avoir une vie épanouie à Madagascar ? Moi, demain, je t'appelle, Jean-Michel, je te dis « ok, je veux m'installer à Tuléa, mais j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureuse, je quitte mon quotidien, je m'installe là-bas. » Quels seraient tes premiers conseils que tu me donnerais ?
Alors, c'est des questions qu'on rencontre souvent sur certains groupes Facebook où il y a des personnes qui posent la question. Et moi, je vais prononcer le conseil que je donne parfois, mais que d'autres donnent aussi. Surtout, alors, dans ton cas, c'est différent, Samacha, parce que tu es malgache, mais s'agissant d'étrangers ou de malgaches qui n'ont pas vécu ici en dehors de vacances, on en parlait tout à l'heure, venir plusieurs fois un petit peu pour sentir l'environnement, le contexte, et sentir un peu la faisabilité de sa propre adaptation, la faisabilité de conduire le projet qu'on aurait de manière hypothétique et empirique en tête avant de venir. Ça, je dirais, c'est la première chose en amont, avant de prendre la décision de venir ou revenir, parce qu'on voit aussi pas mal de gens qui viennent et finalement sont pas bien parfois se trouve obligé de rester, et là ça donne parfois des situations douloureuses. Voilà. Le deuxième conseil, ce serait de dire: arrive avec la page blanche, appuie sur le reset avant de venir, ouvre grand ton cœur, ouvre grand ton esprit, sois bienveillant et essaye de comprendre ce qui t'entoure sans le juger. Ça me semble essentiel partout, mais c'est ô combien vrai à Madagascar. Ce serait, je crois, deux conseils que je m'autoriserais à donner à des gens qui souhaiteraient vivre l'aventure de retour au pays ou d'expatriation.
Effectivement, je pense que le deuxième conseil s'adresse à toute personne, malgache, non malgache, qui revient. Comme on disait tout à l'heure, il faut se réadapter, il faut réapprendre, même si on a grandi à Madagascar de 0 à 25 ans. Et la dernière chose, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager, que tu as envie de dire, un message que tu veux diffuser ?
Il va sortir tout droit du cœur sans avoir le temps d'y avoir réfléchi beaucoup à l'avance, c'est de dire à tous les résidents à Madagascar, moi je me considère comme malgache de cœur, mais je ne suis pas malgache parce que je n'en ai pas le passeport et pas tout ce qui vient avec, mais je me considère comme un madagascarien, donc habitant de Madagascar. On a un pays, Madagascar est un pays formidable. Qui est riche de mille et une choses et qui souvent n'est pas, on n'en prend pas assez soin. Et c'est un on collectif. J'ai le rêve que tous les Malgaches et les Madagascariens résidant à Madagascar accordent un petit peu de temps, un petit peu d'action, un petit peu d'amour pour que ce pays aille vers le haut, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense que le pays a besoin qu'on s'occupe de lui davantage. Ça vaut pour l'environnement, ça vaut pour les relations sociales, ça vaut pour l'intercompréhension, ça vaut pour l'interculturalité. Je pense que avec une petite contribution sincère de tout le monde, le pays n'en ira que mieux.
D'accord. C'est un très beau message, Jean-Michel.
Un petit peu polémique, mais bon.
Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet épisode très
philosophique.
J'ai beaucoup aimé la discussion. J'espère qu'elle sera entendue, comprise. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a sa légitimité pour, pour parler et l'important sur Malabar, c'est que tout le monde puisse apporter parce que finalement, on apprend de nous tous.
Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.